Magellan de Stéphane Zweig. Traduction Alzire Ella. Enregistré par Christiane Johan. Préface. Les livres peuvent naître des sentiments les plus divers. L'enthousiasme ou la reconnaissance, l'indignation, le chagrin, la colère. Parfois, c'est par besoin de s'expliquer à soi-même des hommes ou des événements qu'on prend la plume. Parfois, c'est par vanité, par simple désir de gain, ou encore pour se peindre. Les auteurs devraient toujours savoir les raisons qui ont déterminé le choix de leur sujet. En ce qui concerne ce livre, je sais parfaitement pourquoi je l'ai écrit. Il est né d'un sentiment peu courant, mais très énergique, la honte. Voici comment cela s'est produit. J'eus, il y a 18 mois, l'occasion, désirée depuis longtemps, d'aller en Amérique du Sud. Je savais qu'au Brésil, je verrais quelques-uns des plus beaux sites du monde et qu'en Argentine m'était réservée une rencontre incomparable avec des camarades intellectuels. Cette certitude, à elle seule, rendait le voyage extrêmement agréable, sans compter un certain nombre d'autres facteurs favorables, une mer calme, la détente complète sur un navire rapide et spacieux où l'on se sent détaché de tous les liens et ennuis ordinaires de l'existence. Tout cela contribuait à faire de cette traversée un repos admirable dont je jouissais sans mesure. Mais brusquement, c'était le 7e ou le 8e jour, j'éprouvais comme une sorte d'impatience. Toujours le même ciel bleu, la même mer bleue et calme. Soudain, j'eus l'impression que les heures coulaient trop lentement. Je souhaitais en moi-même d'être déjà arrivé, et tout d'un coup, cette jouissance tiède et indolente du néant m'oppressa. J'étais fatigué de voir les mêmes visages, et la monotonie du service du bord, avec sa calme précision, me devint intolérable. « Avance, avance, plus vite, plus vite !» Vraiment, ce beau et confortable navire, fendant les flots avec rapidité, me paraissait aller trop doucement. À peine m'étais-je rendu compte de cet état d'esprit que j'en fus confus. « Comment, me dis-je, oses-tu avoir de telles pensées ? Tu voyages dans les conditions les meilleures qui se puissent imaginer. » Tu disposes de tout le luxe possible. S'il fait froid le soir dans ta cabine, il te suffit de tourner une clé et l'air est immédiatement réchauffé. Si le jour, le soleil est trop chaud, tu n'as qu'un pas à faire pour actionner le ventilateur. Et 10 pas plus loin, une piscine t'attend. À table, tu peux commander n'importe quel plat et n'importe quelle boisson. Tout est là, en abondance. Tu peux, si tu le veux, t'isoler et lire. De même que tu as à bord des jeux, de la musique et de la société, autant que tu en désires. Tu as à ta disposition toutes les commodités. Tu jouis de la plus grande sécurité. Tu sais où tu vas, à quelle heure tu arriveras et qu'on t'accueillera avec cordialité. Et de même, on sait à Londres, à Paris, à Buenos Aires et à New York à quel point exact du globe se trouve ton navire. Tu n'as qu'un petit escalier à monter, 20 pas à faire, et une étincelle obéissante bondit de l'appareil de télégraphie sans fil et porte ton message à n'importe quel endroit de la Terre. Au bout d'une heure à peine, tu as la réponse. Rappelle-toi dans quelles conditions on voyageait autrefois. Compare cette traversée avec celle des audacieux navigateurs qui découvrirent ces mers immenses. Essaie de te représenter comment ils se lançaient sur leur malheureux côtre, dans l'inconnu, ignorant de la route à suivre. Perdus dans l'infini, sans cesse exposés aux dangers et aux intempéries, aux souffrances de la faim et de la soif. Pas de lumière la nuit, comme boisson, l'eau saumâtre des tonneaux et l'eau de pluie. Rien d'autre à manger que le biscuit dur comme de la pierre et le lard salé et rance, souvent même manquant de cette pauvre nourriture pendant de longs jours. Pas de lit ni de couchette, une chaleur infernale, un froid impitoyable. Et de plus, la conscience qu'ils étaient seuls, absolument seuls, dans cet immense désert d'eau. Pendant des mois, des années, personne chez eux ne savait où ils se trouvaient, et eux-mêmes souvent ignoraient où ils allaient. La faim voyageait avec eux, la mort les entourait sous 1000 formes, sur mer et sur terre. Le danger qui les menaçait venait à la fois de l'homme et des éléments. Personne, ils le savaient, ne pouvait leur venir en aide. Aucune voile ne viendrait à leur rencontre. Dans ces mers inconnues, personne ne pourrait les sauver de la détresse et du malheur, ou, en cas de naufrage, faire connaître leur mort. Je n'eus qu'à me souvenir de ces premiers voyages des conquérants de la mer pour avoir honte de mon impatience. Une fois éveillé, ce sentiment m'obséda durant toute la traversée, et la pensée de ces héros anonymes ne m'abandonna plus un instant. j'éprouvai le désir d'en savoir davantage sur ces hommes, sur ces premiers voyages dans les mers inexplorées dont le récit avait déjà excité mon intérêt lorsque j'étais enfant. Je me rendis dans la bibliothèque du bord et pris, au hasard, quelques ouvrages traitant de ce sujet. Entre tous les exploits de ces hardis conquistadors, celui qui fit la plus forte impression sur moi fut le voyage de Ferdinand Magellan, qui partit de Séville avec 5 pauvres côtres pour faire le tour de la terre. La plus magnifique odyssée peut-être de l'histoire de l'humanité que ce voyage de 265 hommes, décidés, dont 18 seulement revint sur un des bâtiments en ruine, mais avec la flamme de la victoire flottant au sommet du grand mât. Ces livres, cependant, ne m'apprenaient pas grand-chose sur Magellan, en tout cas pas suffisamment pour moi. Aussi, à mon retour en Europe, je poursuivis mes recherches, étonné du peu de renseignements donnés jusqu'ici sur son exploit extraordinaire, et surtout de constater à quel point ce qui avait été dit était peu sûr. Et comme cela m'est déjà arrivé plusieurs fois, je compris que le meilleur moyen de m'expliquer à moi-même quelque chose qui me paraissait inexplicable était de le décrire et de l'expliquer à d'autres. C'est ainsi que ce livre a pris naissance, je puis le dire sincèrement, à ma propre surprise. Car en faisant le récit de cette odyssée de la façon la plus fidèle possible d'après les documents qu'il m'a été donné de rassembler, j'ai eu constamment le sentiment de raconter une histoire que j'aurais inventée, d'exprimer l'un des plus grands rêves de l'humanité, car il n'y a rien de supérieur à une vérité qui semble invraisemblable. Dans les grands faits de l'histoire, il y a toujours, parce qu'ils s'élèvent tellement au-dessus de la commune mesure, quelque chose d'incompréhensible. Mais ce n'est que grâce aux exploits incroyables qu'elle accomplit que l'humanité retrouve sa foi en soi. Note de l'auteur. Le nom de l'homme qui a entrepris le premier voyage autour du monde ne nous a pas été transmis en moins de 4 ou 5 formes différentes. Dans les documents portugais, le grand navigateur est appelé tantôt Fernão de Magalhães, tantôt Fernão de Magalhães. Lui-même, après être passé au service de l'Espagne, signait tantôt Magallanes, tantôt Magellanes. Et les cartographes ont ensuite latinisé cette forme espagnole en Magellanus. Lorsque j'eus à choisir pour ce livre une orthographe unique, je me décidai pour la forme internationale depuis longtemps admise de Magellan. Et ce, par analogie avec ce qui s'était fait pour Christophe Colomb, que nous n'appelons pas non plus Cristoforo Colombo ou Cristobal Colón. De même, le monarque qui lui permit d'entreprendre son voyage est généralement désigné ici sous le nom devenu célèbre de Charles Quint, quoiqu'à l'époque de l'expédition de Magellan, il ne fût encore que Carlos Ier, roi d'Espagne.